autour de la question. D'où ça vient?
Qu'est-ce que ça va changer?
C'est pour qui?
À quoi ça sert?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravi de vous retrouver, chers amis auditeurs, pour ces rediffusions des meilleurs moments de l'année, de ceux qui vous ont le plus marqué en tout cas. Je vous propose de nous réinterroger sur la santé psychique de tous ceux et celles qui ont fait le monde. D'Alexandre le Grand à Hitler, en passant par Jeanne d'Arc ou Louis XIV, pourquoi avons-nous si souvent été dirigés par des personnalités, sinon déséquilibrées, du moins très fragiles, voire borderline? En juillet dernier, le psychiatre Patrick Lemoine nous avait fait partager l'enquête qu'il a menée avec le sérieux et l'humour qui le caractérise sur ce sujet toujours d'actualité, est forcé de constater que la plupart de nos dirigeants ont de sacrées failles. Héros mythomanes, tyrans paranoïaques ou psychopathes, maniaco-dépressifs dépendants à l'alcool, aux drogues, au sexe ou aux médicaments, le tableau clinique a de quoi nous interroger. Est-ce le pouvoir qui rend fou ou la folie qui mènent au pouvoir? De quoi leurs mots sont-ils le symptôme? Diagnostic et traitement à repartager sans aucun tabou sur nos ondes. Autour de cette insolente question, ceux qui nous gouvernent sont-ils sains d'esprit? Bienvenue à l'écoute de cette rediffusion. Bonjour Patrick Lemoine.
Bonjour Caroline.
Merci d'être en direct avec nous pour nous interroger sur la santé psychique de ceux qui ont fait le monde. C'est le titre de votre dernier essai, paru chez Odile Jacob, un ouvrage dans lequel le psychiatre et docteur en neurosciences que vous êtes, Patrick Lemoine, auteur de plusieurs best-sellers sur l'histoire de la folie, celle du placebo, sur la dépression ou l'insomnie, met les pieds dans le plat, si j'ose dire, en revisitant par archives et témoignages interposés les déséquilibres psychiques dont on souffert. Les tyrans sanguinaires comme Hitler ou Staline, les dictateurs et dictatrices éclairés comme Napoléon ou Catherine II de Russie, voire même nos saints héros comme Jeanne d'Arc ou même Jésus, pour lesquels vous osez donc poser un diagnostic, Patrick Lemoine, rarement flatteur, il y en a quelques-uns qui s'en sortent, mais il y en a peu, qui soient réellement sains d'esprit, tous malades, nos gouvernants, nos héros, nos tyrans?
Je pense que certaines maladies mentales, n'ayant pas peur des mots, prédisposent au pouvoir.
Ah, carrément.
Oui, carrément. Par exemple, la paranoïa. Hitler, Staline, Robespierre. Un paranoïaque, c'est quelqu'un qui ignore le doute, qui a toujours raison et qui est un rouleau compresseur. Donc à partir du moment où on fonce sans du tout s'inquiéter de tous les gens qu'on va écraser sur son passage, forcément, ça facilite les choses. Alors que, et on voit quand même que le peuple et les médias ne supportent pas qu'un chef d'État doute. Si jamais un président ou un ministre dit « Ah, ça, je suis pas sûr. Oh, mon Dieu, il n'est pas professionnel, il n'est pas compétent. » On ne veut pas de gens qui doutent.
Oui, donc ce sont aussi peut-être nos symptômes. On sélectionne les parano. Alors, justement, vous avez revisité la santé psychique de tous les parano et autres mythomanes qui ont fait le monde. Qu'en est-il de ceux qui le font aujourd'hui? On pense évidemment au président de la première puissance mondiale, Donald Trump, pour ne pas le nommer, dont la santé psychique, c'est le moins qu'on puisse dire, fait débat. Qui a été déclencheur d'ailleurs pour cette enquête.
Oui, c'est ça, c'est son élection qui m'a fait penser que, franchement, pour que la plus grande démocratie du monde, après l'Inde, ait élu quelqu'un qu'on n'aimerait pas avoir comme chef de famille ou comme chef d'entreprise. Mm-hmm. Trop près, on serait un peu inquiet. Et finalement, ce n'est pas un type banal. Et on voit qu'on élit des gens pas comme nous. Et d'ailleurs, on a eu un président, celui d'avant, mm-hmm. qui a dit « je serai un président normal ». Ça ne lui a pas très réussi. Et 3 mois après son élection, il avait déjà des scores dans les chaussettes.
C'est ça. Donc on préfère élire, effectivement. On ne veut pas des gens normaux. Mm-hmm. Voilà pourquoi on ne va pas arrêter de tourner autour de cette question. Mm-hmm. Est-ce que c'est le pouvoir qui rend fou? Est-ce que la folie mène au pouvoir? Mais nous-mêmes, vous dites, on ne veut pas...
C'est les deux, mon colonel. Mm-hmm. Et en plus, effectivement, il y a quand même une vraie complicité entre le peuple et Trump. Trump, effectivement, il est totalement impulsif, incontrôlable, imprévisible, mythomane.
Et c'est votre diagnostic, hein, on y reviendra.
Enfin, mais c'est pas le mien, parce qu'il y a eu énormément de commissions de psychiatres qui ont fait des rapports qui convergent assez sur les diagnostics. Et on voit que c'est un personnage, lorsqu'il lance ce que lui-même appelle les fake news, il y croit. Alors qu'à l'inverse, chez nous, la présidente du Rassemblement national,
Marine Le Pen, lance
délibérément des choses qu'elle sait erronées, des fake news qu'elle sait erronées, auxquelles elle ne croit pas, mais c'est une stratégie politique, c'est du mensonge, c'est pas pathologique, je ne la crois pas malade, contrairement effectivement au président américain.
Autour de la question, nos gouvernants sont-ils sains d'esprit ? Allez, on va peut-être commencer par en rire plutôt que d'en pleurer, avec cet extrait d'un sketch de Maman, bien connu nos auditeurs sur RFI, consacré au président fondateur, mythomane et éternellement jeune de la très très démocratique République du Gondwana.
Lève la tête partout où tu es en très très démocratique république, à Gondwana City, notre belle capitale, ou dans n'importe quelle bourgade paumée de l'intérieur du pays, ben tu vois notre leader bien-aimé, son excellence président fondateur qui te sourit doucement, tendrement, mais fermement. Tu admires son teint frais, sa chevelure touffue et insolente, et surtout sa jeunesse éclatante qui éblouit tout ce qu'il y a autour. Dans ce pays, il n'y a pas un bureau, une école, un magasin, un immeuble, une salle de spectacle, une gare, un aéroport, un hôtel, un restaurant, où tu ne vois pas ce portrait magnifique accroché au mur, comme pour bénir les lieux et les gens qui entrent et sortent. Qui que tu sois, mais tu te surprends parfois à rester pantois devant cette photo comme un pèlerin dans un lieu saint qui ferait une prière muette à un dieu omnipotent. Et tu auras raison, mon ami, parce qu'ici-bas, c'est le président fondateur qui exauce tous nos voeux. Hein. C'est lui le boss, le capo di tutti capi. Regarde-le, il n'a pas changé depuis toujours, comme Jésus sur les photos. Si tu es gondouané lambda, sache que président fondateur sera là toute ta vie pour toi. Tu es né avec lui, tu as grandi avec lui, tes enfants et tes petits-enfants feront pareil. Si tu es de l'opposition, alors malheureusement pour toi, sache que les jaloux saboteurs aux yeux de crocodile comme toi, ils vont maigrir de jalousie là-bas en exil jusqu'à la fin des temps. Allez mon ami, dis bonjour à la photo de notre leader bien-aimé et dis-toi qu'elle sera là tout le temps pour te protéger parce que président fondateur est éternel.
Voilà qui est dit et bien dit par Maman, Patrick Lemoine.
Il est absolument génial, il a tout compris.
Alors, premier constat, justement, suite à ce sketch de Maman, chez tous les dictateurs présidents ou pas, on retrouve non seulement la mythomanie, mais surtout beaucoup de paranoïa. C'est le cas pour eux. Hitler, allez, on commence par Hitler.
Oui, Hitler était certainement un paranoïaque délirant. Et c'est venu d'ailleurs d'un traumatisme, puisque Hitler, c'était un pauvre type qui était sûrement pas d'une très grande intelligence. Il a tout raté, ses études, il les a ratées. Il était SDF, vivant dans un foyer style armée du salut où il peignait des vagues peintures à partir de cartes postales.
Des croûtes.
C'était un minable. Et puis, il avait un génie qui était le génie oratoire. Mais son histoire, c'est qu'il a toujours essayé de déserter. Il a déserté quand il était autrichien. Il est venu en Allemagne pour échapper à la conscription. Et puis, la guerre de 14-18 a éclaté. Il s'est quand même retrouvé mobilisé. Mais il a pu se faire nommer estafette, c'est-à-dire qu'il portait les courriers et il n'était jamais au front. Pas de chance, il a quand même été victime d'une bombe qui n'est pas tombée très loin. Il a les yeux un petit peu brûlés, donc il voit plus clair. Il est hospitalisé, il guérit. Et une fois qu'il est à l'hôpital, guéri, le pasteur lui apprend « l'Allemagne a perdu la guerre ». Et là, il redevient aveugle, mais cette fois-ci de façon hystérique. C'est-à-dire, il n'y avait pas de raison clinique pour qu'il soit aveugle, mais il ne pouvait pas voir la défaite de l'Allemagne, donc il est devenu aveugle. Et tout d'un coup, il a eu l'illumination qui lui a permis de revoir, c'est la photo juive. À partir du moment où il y a eu ce eureka, cette espèce de cristallisation de son délire, toute sa vie a été consacrée à punir les responsables de la défaite et de l'humiliation de la grande Allemagne.
Donc c'est vraiment un paranoïaque hystérique, délirant.
Délirant, absolument délirant. Contrairement à Staline, qui est un paranoïaque simple, c'est-à-dire persécuté, méfiant, rigide, dangereux comme c'est pas possible, mais pas délirant a priori.
D'accord, donc Staline moins délirant, mais peut-être plus dangereux qu'Hitler.
Il y a plusieurs formes de paranoïa, effectivement. Il avait peut-être des hallucinations, Hitler, on n'est pas sûr, mais c'est très possible.
Et vous proposez même, Patrick Lemoine, des cures pour ces dictateurs-là, Hitler et Staline, c'est assez radical.
Oui, c'est radical, parce qu'il existe effectivement dans pas mal de pays, et notamment en France, de ce qu'on appelle des UMD. C'est un barbarisme, c'est des unités pour malades difficiles, où les gens, en fait, sont internés. Alors, s'ils sont curables pour quelques semaines, Mais des gens comme Hitler ou Staline, s'ils étaient sous ma responsabilité, ne sortiraient jamais. Et en plus, je les traiterais avec des traitements injectables, parce que je suis certain qu'ils iraient cracher les médocs dès qu'ils en auraient l'occasion.
Ah d'accord, donc c'est ça qu'il faut faire. Beaucoup. Vous vous en méfieriez d'Hitler et Staline. Oui, d'accord, là, on vous suit là-dessus.
Vous les empêchez de nuire.
Mais en plus, ces dictateurs monstrueux, donc ces tyrans sanguinaires, n'étaient en fait sains ni de corps ni d'esprit. À ce sujet, un nouvel éclairage du neuroscientifique Étienne Hirsch, spécialiste de Parkinson, qui était récemment notre invité.
Beaucoup de dictateurs, c'était le cas d'Hitler par exemple, ont développé une maladie de Parkinson. Est-ce que c'est quelque chose qu'il a pu observer chez de nombreux dictateurs, premièrement? Et deuxièmement, est-ce que ces gens-là avaient des formes avancées de la maladie avec des troubles cognitifs?
C'est un fait avéré que beaucoup...
Oui, en tout cas, Hitler avait développé une maladie de Parkinson.
Est-ce qu'il pourrait peut-être expliquer une certaine dégénérescence?
Ce qui peut, en tout cas, expliquer certains comportements, oui. Et ça, on le voit très, très bien sur les films d'Hitler. Régulièrement, on a un grand congrès international qui s'appelle Movement Disorders, donc le trouble du mouvement. Et on a certains de nos collègues qui s'intéressent justement à l'histoire des mouvements anormaux. Et très clairement, ils ont ressorti des films d'Hitler avec des signes très clairs de maladie de Parkinson.
Une réaction à ce diagnostic?
Ah oui, mais je crois que ça ne fait aucun doute qu'il ait eu un Parkinson. Je suis totalement d'accord. En revanche, Dieu merci, à ma connaissance, et Dieu sait si j'en ai suivi, les Parkinsoniens, ça n'entraîne pas de troubles du comportement ou du jugement particulier. Il y a effectivement un affaiblissement très lent, très progressif des performances cognitives, mais c'est des gens absolument adorables la plupart du temps, totalement sensés, totalement sains dans leur tête. Pour moi, il y a la psychiatrie, c'est la paranoïa délirante. Et puis, il y a la neurologie, c'est le Parkinson.
C'est le Parkinson qui expliquerait peut-être sa voix aussi, très saccadée, ses mouvements, ou non, même pas?
Je ne suis pas très sûr de ça, je ne suis pas très sûr. Non, parce qu'il avait une voix qui était très fluide au début des années 30. Ses discours coulaient très, très bien. Ils étaient teigneux, terrifiants, mais ce n'était pas tellement... Parce que les Parkinsoniens, ils ont du mal à parler. C'est très saccadé. Là, c'est violent, c'est guerrier, c'est tout à fait autre chose. Non, moi, je pense que... Vous savez, la différence entre la neurologie et la psychiatrie, c'est le hardware, c'est-à-dire la machine, l'électronique, et puis le software, ça c'est la psychiatrie. Donc effectivement, du point de vue hardware, il était parkinsonien, et du point de vue software, il était parano.
Il n'avait pas grand-chose pour lui. Alors, autre particularité d'Hitler, vous le rappelez, c'est l'absence totale de libido.
Eh bien oui, puisqu'on sait qu'il avait, pardon pour le jargon, une cryptorchidie, c'est-à-dire qu'un des testicules, ou peut-être même les deux, n'était pas descendu au moment où il est né, et on sait que quand les testicules restent dans la cavité abdominale, eh bien il y a une stérilité au minimum, et très souvent un trouble de la libido. Et un certain nombre d'historiens pensent qu'il est mort vierge, qu'il n'a jamais touché Eva Braun, qui était sa maîtresse de cœur, mais rien de plus.
Alors, absence totale de libido chez Hitler, absence totale de libido chez une autre, alors là, c'est une héroïne carrément, c'est peut-être votre héroïne, Patrick Lemoine, c'est Jeanne d'Arc, la pucelle d'Orléans.
Je ne suis pas convaincu qu'elle était sans libido, mais elle avait une libido très développée vis-à-vis de Saint-Michel-Archange, de Sainte-Catherine, Sainte-Marguerite. Elle était folle amoureuse de Dieu quand même, il ne faut pas l'oublier.
Elle était folle amoureuse de Dieu, mais c'était platonique.
Je suis même allé jusqu'à dire qu'à son époque, on aurait pu dire que c'était une djihadiste, parce qu'elle a mené une guerre sainte. Et oui.
Mais vous avez un petit faible quand même pour Jeanne d'Arc.
J'aime beaucoup Jeanne d'Arc parce que contrairement à ce qui a pu être dit, elle n'était absolument pas hallucinée, absolument ni schizophrène, ni psychotique, ni hystérique. Non, simplement, c'était une grande chamane. Il y avait une prédiction, une prophétie.
Donc elle entendait des voix comme les chamanes.
Exactement. Il y avait une prophétie qui disait depuis 150 ans qu'une pucelle venue de Lorraine sauverait la France en boutant l'anglais hors de France. Ce qui fait que quand le roi Charles VII l'a vu arriver, il n'était pas du tout surpris, c'était normal. Il y avait une pucelle qui devait venir de Lorraine pour sauver la France. Donc c'était sa fonction d'être pucelle. Donc elle ne pouvait effectivement pas avoir de libido physique. Sinon, elle sortait des clous de la prophétie.
Alors, enfin, vous la dites aussi anorexique quand même.
Alors, elle est anorexique, certainement. Et c'est son anorexie, le jeûne, rappelez-vous, Jésus, 40 jours dans le désert, Bouddha, 40 jours aussi, Saint Antoine, pour provoquer des transes, on peut jeûner. Et c'est ce qu'elle a fait. Et du coup, elle avait des voix, des visions, qui étaient exactement ce que les chamans sibériens ont en Mongolie. Moi-même, j'ai pratiqué la transe. C'est l'opposé des schizophrènes. Un schizophrène, ça lui tombe dessus et c'est violent, c'est méprisant, c'est injurieux. Alors que Jeanne d'Arc les convoquait, ses voix, et puis elle l'aidait, elle le conseillait.
C'est une forme d'assaise, en fait, son jeûne.
Oui, elle était ascétique, effectivement. Et puis, elle avait des raisons d'être anorexique, parce que sinon, elle n'aurait jamais pu rentrer dans l'armure. Parce que les armures n'étaient pas faites pour les formes généreuses féminines. Donc, il fallait qu'elle ait, pardon des détails, mais ni seins ni fesses. Sinon, elle ne rentrait pas dans l'armure. Et puis, elle avait une autre raison aussi, pour pouvoir sauver la France. Il fallait qu'elle mène le combat. Or, les garçons, ils avaient une armure avec un petit clapet qui faisait que quand ils avaient un besoin urgent, ils pouvaient se soulager.
Ils pouvaient faire pipi,
pour
en,
les filles, ouais, en gros. Pour les filles, ce n'était pas possible. Ça n'existait pas. Donc imaginez, on est devant Orléans, Jeanne d'Arc qui dit « Stop, pendant 2h30, 1 heure pour enlever mon armure, 1 heure pour la remettre, puis 1 demi-heure parce que j'ai mes règles et puis en plus j'ai envie de faire pipi. » Ça ne marchait pas. Alors qu'avec l'anorexie, pas de pipi, pas de caca, pas de règles, on rentre dans l'armure et donc on peut mener le combat.
Contre-exemple.
Ah, ça fonctionne. Hein.
Ah, ça fonctionne très bien. Hein. Ça fonctionne psychiatriquement très bien.
Mais autrement, elle était très saine, très drôle, pleine d'humour, avec un très bon contact. C'était tout sauf une malade mentale. Mais bon, elle avait une mission, puis elle l'a remplie.
Patrick Lemoine, on continue avec une autre femme que vous aimez bien aussi. Cette fois-ci, c'est une dictatrice éclairée. Alors, elle n'était pas du tout, elle n'avait pas d'absence de libido
ah
du
non.
tout. Vous voyez de qui
c'est
je parlais.
C'est l'anti-Jeanne d'Arc.
C'est l'anti-Jeanne d'Arc, c'est Catherine
de Grande Catherine.
La Grande Catherine.
Oui, oui. Mais tout à l'heure, en écoutant Mamane, que j'admire beaucoup, je pensais un peu à Catherine de Russie, qui a été vraiment ce qu'on appelle un despote éclairé. Comme conseiller, c'était quand même Diderot et Voltaire, excusez-moi du peu.
Et ça a été la première à se faire vacciner elle-même.
Exactement,
pour
elle s'est
son
fait
peuple.
Vacciner contre la variole pour que le peuple n'ait pas peur. Elle a complètement refait tout le système sanitaire et elle a complètement refait tout le système éducatif de la Russie. Et puis elle a augmenté l'influence et ses territoires. Donc c'était une grande dame. Bon, effectivement, un peu comme au Gondwana, valait mieux pas trop quand même.
Fallait pas être son mari.
Alors, non, mais là, moi, je voudrais l'absoudre parce qu'effectivement...
Elle a fait tuer son mari.
Oui, elle s'est mariée très jeune avec un sale type alcoolique, coureur de jupons, qui, quand il est devenu tsar, l'a fait assigner à résidence, qui voulait divorcer et peut-être même pire. Bon, elle a vite compris, effectivement, elle a envoyé son amant, parce qu'il ne la touchait pas en plus. Il fallait qu'elle ait au moins un contact. Donc, elle s'est fait violer par son mari complètement ivre pour qu'il y ait un doute sur ses enfants. Bref, quand elle a été assignée à résidence, qu'elle a compris que ça allait mal se passer pour elle, elle a envoyé son mari et 3-4 gardes du corps qui ont chopé le tsar et qui l'ont enfermé et proprement étranglé. Et elle est devenue tsarine. Il faut le faire, quand on a 22 ans, c'est une sacrée nana.
Sacrée aussi, nana, sacrée féministe, et qui aimait beaucoup les hommes.
Alors, son problème, c'est qu'après, donc, elle était veuve, elle a épousé de manière morganatique, c'est-à-dire qu'il n'avait pas de pouvoir, le général Potemkin, qui était en fait le tsar gris, qui était le vrai patron de la Russie, avec elle, bien sûr. Et au bout d'un moment, c'était plus charnel, mais ils se sont toujours beaucoup aimés. Et du coup, Catherine de Russie a inventé ce qu'on appelle dans les entreprises la démarche qualité. Potemkin, à sa demande, avait fait un réseau dans toute la Russie et repéré les comptes, bien de leur personne, 20-25 ans, des beaux mecs. Premier stade, une fois qu'ils étaient repérés par ce réseau, examen clinique soigneux, parce que filer la ch'touille à la tsarine, ça faisait un peu désordre.
Oui,
donc, il fallait être sûr qu'il n'ait pas de MST. Deuxièmement, une comtesse évaluait la culture générale, parce qu'il fallait quand même qu'ils aient un peu de discussion, de conversation entre-temps. Et troisièmement, il y avait une comtesse essayeuse qui allait à la bataille et pouvait ensuite livrer le produit
recommander
à la tsarine.
Ou pas
exactement.
À la tsarine, le monsieur.
Et les gars, il fallait qu'ils assurent, puisqu'on décrit un malheureux comte de 25 ans, très beau, qui avait tellement peur de ne pas assurer qu'il a pris on ne sait pas trop quoi, des aphrodisiaques, il est mort dans l'infarctus en pleine action. Mais elle était reconnaissante puisqu'elle a offert quelque chose comme une fois et demie le produit intérieur brut de la Russie. C'est-à-dire, c'est en centaines de milliards d'euros ce qu'elle a offert à ses amants. C'est sans doute la femme qui a le plus dépensé de tous les temps. Je croyais que c'était Jackie Kennedy. Eh bien non, c'est Catherine de Russie.
Il y a des dépensières, hein, Marie-Antoinette, acheteuse compulsive.
J'avais fait un chapitre sur Jackie Kennedy, c'était des femmes sur le divan. Et ce que j'avais lu, c'est que c'était Jackie Kennedy qui avait le plus dépensé de tous les temps. Mieux que Cléopâtre, mieux que Zénobie, mieux en franc constant. Mais je crois qu'ils se sont trompés, ces historiens, c'est Catherine.
Ah, on voit bien que vous l'aimez bien, Catherine Durus.
Oui, je l'aime bien, c'est une grande dame. Bon, c'est vrai que c'était du musclé comme règne. Mais c'était pour la bonne cause, c'était vraiment pour la grandeur de la Russie.
Autour de la question de la santé psychique de nos gouvernants, de ceux qui ont fait le monde, nouvelle question, ou plutôt question autour de laquelle nous tournons dans cette émission, résumée sans tabou par Carole Châtelain du mensuel Science et Avenir.
On a coutume de dire, et ce que vous étudiez dans votre livre, que les grands gouvernants ont tous, et excusez-moi l'expression, un pet au casque. Est-ce que ça voudrait dire que le pouvoir ne se conquiert que si on est différent, on a une, on pourrait dire, un grain de folie, que ce soit dans le bon ou dans le mauvais sens?
Faut-il un grain de folie pour diriger le monde, pour avoir des idées nouvelles aussi?
Écoutez, Caroline, c'est pas vous et moi qui serons président de la République.
Non,
et je pense qu'on est quand même des gens plutôt normaux. Enfin, moi, je suis un peu, borderline. Étant psychiatre, je peux pas être vraiment normal, c'est bien connu.
Je sais pas qui est normal, d'ailleurs. Je sais pas si je le suis non plus.
Si. Non, quelqu'un normal, c'est quelqu'un qui utilise la bonne défense dans la bonne situation. C'est-à-dire qui est triste quand il a un deuil, qui est hilar, c'est-à-dire maniaque quand il a une joie.
Et on est fou, mais c'est
toutes les maladies du monde, mais à bon escient.
Ah,
et quelqu'un qui est malade, c'est quelqu'un qui est tout le temps triste, c'est un déprimé. Quelqu'un qui est tout le temps méfiant, c'est un parano. Quelqu'un qui range tout le temps, il a un toc.
Donc, mais on peut être un peu tout ça.
Oui, mais j'espère que vous et moi avons tout ça. Quand c'est vraiment, pardon du mot, trop le bordel chez moi, je nettoie. Je suis pas obsessionnel pour autant. Quand j'étais plus jeune et pas marié et que je voyais une belle fille, je draguais. J'étais pas hystérique pour autant, etc. Et si je voulais faire la fête, je pouvais boire un coup. J'étais pas alcoolique pour autant.
Donc c'est ça la normalité.
La bonne santé, c'est ça.
La bonne santé. Voilà.
Mais on voit bien que tous ces gouvernants, à l'exception de Jésus, Bouddha, Jeanne d'Arc, qui n'étaient pas des gouvernants de toute manière, eh bien, ils ont tous la drogue la plus puissante de tous les temps qu'on appelle l'hubris, c'est-à-dire la mégalomanie, la très grosse, très haute estime de soi. Bon, Jules César était pas mauvais dans le domaine, mais Louis XIV ou Napoléon étaient bien aussi.
L'hubris,
même De Gaulle, que je considère comme saint d'esprit, avec Salomon, c'est les deux seuls.
Les deux qui s'en sortent, c'est De Gaulle et Salomon. Et le roi Salomon, on y reviendra, c'est magnifique.
Que je considère comme saint d'esprit. Mais quand même, il avait une haute estime de soi aussi, De Gaulle, sans que ce soit pathologique. Bref, ils ont tous cette drogue, déjà, pour vouloir conquérir le pouvoir. Il faut être très spécial. Moi, j'ai des amis qui étaient à l'école avec un futur Premier ministre et qui me disent, mais il n'était pas comme nous. En récré, on voyait bien qu'il n'était pas comme nous. Il ne pensait
déjà,
pas comme
déjà,
nous.
Déjà, futur Premier ministre.
Exactement. Bon, ça lui a mal réussi à la fin, le pauvre de droite.
Mais d'accord, bon. Il n'a jamais pu devenir président.
Eh ben non, parce qu'il aimait trop les costumes offerts.
D'accord.
Donc voilà, c'est pas des gens comme nous. Mais ce qu'on sait aussi, c'est qu'une fois au pouvoir, eh bien ça transforme aussi le cerveau. C'est-à-dire, faut être bizarre pour avoir des failles pour conquérir le pouvoir. Mais une fois au pouvoir, ça s'aggrave.
C'est une grave maladie, le pouvoir.
C'est une addiction très très forte. Et pour reparler de François Fillon, on voit bien qu'il était sûrement très très addict au pouvoir, puisqu'une fois qu'il était carbonisé, il savait que c'était fichu, qu'il ne pouvait pas s'en sortir, il n'a quand même pas voulu démissionner, quitte à ruiner peut-être définitivement, en tout cas sévèrement son parti, mais peu importe, il s'est accroché comme un drogué à sa drogue.
Oui, c'est une drogue, et ils sont tous, d'ailleurs il y en a beaucoup que vous citez, qui sont dépendants au moins au pouvoir,
Persuadé que M. de Rugy aujourd'hui fait une réaction de manque absolument épouvantable, comme n'importe quel héroïnomane.
D'être obligé de démissionner.
Et là, oui.
Autour de la question pourquoi tant d'hubris et pourquoi tant de parano chez ceux qui nous gouvernent, allez, on écoute la brésilienne Flavia Coelho, Parano, sur RFI.
Autour de la question sur RFI.
Ironiza, analisa, pega, me abraça, me alisa, imobiliza. Quer tomar conta de mim? Eu não sei apreciar. Um homem que sabe dar e que pede, pede tanta prova de amor. Dou prova de amor, dou se você quiser. Dou prova de amor, dou. Quer tomar conta de mim? Homem maduro é melhor, pra cuidar de quem tá só e que pede. Pede nova prova de amor. Um homem que sabe dar. E a nossa diferença de idade não interessa, mas agora é minha hora. Me desamarra e se é
ciúme, não dorme, não se alimenta, já que tô confabulando só pra te irritar. Onde passei, a que hora cheguei, que rua atravessei, quer saber tudo, a sua paranoia nos matou, paranou. Onde passei, a que hora cheguei, que rua atravessei, quer saber tudo, a sua paranoia nos matou, paranou.
Parano, Flavia Coelho sur RFI, autour de la question de la santé psychique de ceux qui ont fait le monde, titre du dernier essai de notre invité, le psychiatre Patrick Lemoine, un ouvrage addictif. Vous avez mené l'enquête, Patrick Lemoine, sur les déséquilibres et les dépendances dont souffrent et dont ont souffert beaucoup de dirigeants. À ce sujet, je vous propose un nouvel éclairage sur ces hommes d'État sous influence de l'alcool, des drogues et autres médicaments. C'est l'éclairage de Tania Krasniansky, auteure de Le pouvoir sur ordonnance, ces drogués qui ont fait le XXe siècle. Tania Krasniansky s'est penchée sur les rapports plus que troubles avec leurs médecins personnels qu'ont entretenu hommes d'État et tyrans qui ont fait le XXe siècle, de Staline à Kennedy en passant par Mao, Churchill, Franco et à commencer par Hitler. Explication sur ordonnance recueillie par Charlie Dupiou.
En fait, j'avais photocopié aux archives en Allemagne les carnets du docteur Morel, qui était le médecin d'Hitler. C'est un cahier médical, donc il reporte chaque jour ce qu'il lui a donné, son humeur. Et je me suis rendu compte qu'Hitler, qui était quand même le plus grand paranoïaque de la planète, avait une confiance absolue en cet homme, qui était finalement considéré par tous comme un charlatan. Mais il a plu immédiatement à Hitler parce qu'il l'a soigné assez rapidement de ses maux, et surtout il parvenait à lui expliquer très simplement ce qu'il avait. Donc Hitler, qui était, comme vous le savez probablement, végétarien, qui ne fumait pas, enfin, qui avait arrêté de fumer depuis longtemps, qui avait un régime très particulier, lorsque ce médecin est arrivé dans son entourage, très rapidement, il a vécu avec lui au quotidien et est devenu en fait son dealer, son pourvoyeur de drogue, qu'il le remontait le matin ou avant des interventions, et puis qu'il lui permettait de dormir le soir avec des somnifères, qui étaient des somnifères qui sont maintenant à usage vétérinaire. Et c'est allé crescendo lorsque le Reich a commencé à se déliter. Les substances en fait, qu'il lui fournissait étaient de plus en plus importantes.
Vous êtes aussi intéressé à Kennedy ?
Alors le lien entre le paradoxe entre un grand démocrate et un grand dictateur qui sont donc Kennedy et Hitler, c'est que dans les portraits que moi j'ai réalisés, donc ces 8 portraits, j'ai pas couvert l'intégralité des hommes politiques, c'est clairement ceux qui abusaient le plus des substances chimiques et qui dès lors avaient une dépendance avec leur médecin qui était de l'ordre d'un dealer à son client, plus que médical. Il y a aussi ce secret qui devient, lorsqu'il s'agit de la santé de chef d'État, ça devient un secret d'État. Ces hommes-là sont plus confiants en se disant que, grâce au serment d'Hippocrate, ils ne devraient pas révéler quoi que ce soit de leurs maux. Ils savent très bien que leur patient est extrêmement malade, et ça a été le cas de nombre d'entre eux, qu'il est au bord de la folie parfois. 49% des chefs d'État américains avaient des troubles psychiatriques. C'est une étude qui avait été faite par Yale il y a quelques années, entre 1776 et 1974. Donc ça fait quand même un nombre très très important. Le pouvoir vous ronge, enfin, je veux dire physiquement, c'est quelque chose d'éreintant, d'épuisant à ce niveau-là. Dès lors que vous êtes au pouvoir, vous voulez y rester. Le pouvoir, c'est une drogue en fait.
Vous le disiez vous aussi, Patrick Lemoine, le pouvoir, c'est une drogue.
C'est ça. Alors, je ne voudrais pas que les auditeurs se méprennent. Sur mes 19 personnages, il n'y a que 3 parano. Les autres ont bien d'autres maladies diverses et variées.
Et beaucoup sont dépendants, tout de même. Dépendants alors aux médicaments, déjà, là, en l'occurrence, mais oui. Pas seulement, aux drogues, mais aux sexes.
Regardez Charles Quint. Mm-hmm. Charles Quint, lui, il était malade physiquement et psychiquement. C'était un grand malade mental. Mais lui, c'est un des seuls qui n'avait pas d'hubris, parce qu'il n'a rien fait pour être au pouvoir. Et finalement, il s'est barré, il a abdiqué dès que ça a été possible.
Mais lui, il était malade physiquement et psychiquement.
Oui, oui. Et d'ailleurs, il était tellement malade qu'une fois qu'il a abdiqué, il est allé au couvent. Et une fois au couvent, il a organisé ses propres funérailles auxquelles il a assisté, parce qu'il avait envie d'entendre ce qu'on disait de lui après sa mort. Ce qui est quand même... Alors l'histoire est morale, parce qu'il a pris froid et il est mort 3 semaines plus tard.
Donc il avait au moins préparé ses funérailles. Mais enfin, c'est un sacré cas. Alors, vous citez également... Alors,
lui, il avait des rapports avec ses médecins qui étaient troubles, parce que les médecins lui disaient, vous avez la goutte, vous avez des tas de maladies, il faut manger moins, il faut boire moins. Oui.
Il continuait à boire et à manger. Ouais. Alors vous vous intéressez à de nombreux personnages. Certains, on l'a dit quand même, trouvent grâce à vos yeux. Vous avez dit, il n'y a pas que des paranos. Il y en a qui sont maniaco-dépressifs, comme Churchill.
Churchill, le roi David, le roi Saül, étaient des grands maniaco-dépressifs. Saül, lui, c'était une forme
délirante. Saül, c'est dans la Bible aussi.
C'est le premier roi répertorié dans la Bible. Hein, et qui a été donc nommé par Yahvé et le prophète Élie. Et lui, il était avec des épisodes de manie furieuse où tout d'un coup, il avait un délire de persécution contre son gendre et successeur qui était David, le roi David, qui avait été nommé parce que pour soigner ces épisodes de dépression, de mélancolie, ils ont inventé une technique toujours utilisée qui était la musicothérapie. David était un grand musicien, les psaumes de David sont sublimes.
C'était
pour soigner
les troubles bipolaires de Saül.
Et tout d'un coup, c'était tellement efficace qu'il sortait de sa manie, il prenait sa lance et il essayait de clouer David au mur qui détalait le malheureux et qui prenait ses jambes à son cou. Et ça, il l'a fait pas mal de fois. Puis quand il n'était pas excité comme ça, qui n'était pas délirant et persécuté, il avait honte, il regrettait, il faisait revenir David et il ressombrait dans la mélancolie. Et Saül a fini par se suicider. Donc, et David lui-même, alors qu'il n'était pas
le roi David, hein.
Le roi David, alors qu'il n'était pas apparenté par le sang, était également maniaco-dépressif. Et c'est très très évident quand on lit la Bible avec un œil un peu clinique. On voit un coup, il est hilar. Il s'est pris d'ailleurs une chasse par son épouse parce qu'il a fait une espèce de danse sauvage. Il avait un pagne très court, rien dessous. Il s'est mis à danser devant tout le monde. Sa femme était à sa fenêtre, elle l'a engueulé en disant quand même, devant toutes les servantes, ça se fait pas vraiment. Il s'est mis à dépenser tous ses sous. Et après, il a fait une bonne dépression. On voit qu'il est aussi tout à fait dans l'alternance.
Ça, vous l'avez lu. Enfin, c'est le psychiatre que vous êtes qui l'a lu dans la Bible, en fait.
Il suffit de lire d'un œil clinique les textes qu'on a à disposition. Churchill, là, j'ai rien inventé. Tout le monde le sait. C'était la septième génération d'une lignée de bipolaire chez les ducs de Marlborough. Marlborough s'en bat en guerre. Mm-hmm. Donc, il était bipolaire. Il faisait des épisodes maniaques quand il était en guerre, d'ailleurs. Ça le stimulait beaucoup.
Ça ne fait pas de si mauvais homme d'État, d'ailleurs, ces maniaques ou dépressifs.
Je pense que sans l'état maniaque de Churchill, nous parlerions tous allemands aujourd'hui. C'est quand même lui qui nous a sauvés. C'était le seul à résister, finalement. Hein. Le seul à résister, qui a fait barrage à Hitler. Sans lui, le monde serait totalement différent. Surtout que les Américains ont mis du temps, quand même, à nous rejoindre fin 1941. Il a fallu qu'Hitler fasse la bêtise de déclarer la guerre à Staline et de couler un bateau américain pour avoir les deux plus grandes puissances du monde contre lui. Mais c'est Churchill qui nous a sauvé la mise. On ne doit pas l'oublier parce qu'il était maniaque. Comme disait Roosevelt, il a 100 idées par jour, dont 2 ou 3 sont bonnes, quand même.
C'est-à-dire que ces troubles psychiatriques, c'est peut-être ça aussi qui en a fait des grands hommes. C'est-à-dire cette fragilité-là, psychique, parfois.
Il faut savoir que la bipolarité est apparentée au génie. Les bipolaires sont plus intelligents que la moyenne. Et énormément de prix Nobel, d'immenses artistes, tous les Mozart, les Einstein, tout ça, en principe, sont
bipolaires.
Donc, c'est vraiment la pathologie qui mène au génie. Et je pense que Churchill, c'est le bon exemple, puisqu'il a eu un prix Nobel de littérature. Il peignait, il a vendu des tableaux pour des sommes pharaoniques. Et je pense que c'est peut-être le plus grand homme d'État, enfin, en tout cas, le plus grand politique de tous les temps. Avant tout le monde, il a tout compris à Hitler, tout compris à Staline. Il avait tout compris, cet homme. Et bien qu'ils aient passé leur temps à s'engueuler à Londres, il aimait beaucoup De Gaulle. De Gaulle l'engueulait aussi, mais il l'aimait beaucoup. Et c'est quand même leur couple improbable qui a permis de sauver le monde.
Précisément à propos de grands hommes dont les folies ont permis de faire le monde tel qu'il est, je propose de nous arrêter sur Alexandre le Grand, auquel vous consacrez également un chapitre, en écoutant d'abord un éclairage, alors cette fois-ci neuroscientifique, signé du neurobiologiste Bernard Poulain.
Je me rappelle d'une image qu'on montre toujours avec Alexandre le Grand. Vous voyez son portrait, toujours avec ce cou et ses muscles du cou extrêmement fortes qui font penser qu'il avait une dystonie cervicale, une contraction anormale des muscles du cou, tout à fait évidente. Alors ça lui donne ce port altier, peut-être parce qu'il avait une rigidité qui lui posait des problèmes pour tourner la tête.
Quelle réaction à ce diagnostic, cette fois-ci physique, hein,
oui,
physiologique,
c'est un petit peu comme le Parkinson d'Hitler. Je pense qu'on n'est pas dans la psychiatrie cette fois-ci. Effectivement, il avait de l'allure, Alexandre le Grand. Je pense que c'est peut-être le plus grand homme de tous les temps, Alexandre le Grand. C'était extraordinaire. Il avait ce rêve de synthèse de l'Orient avec l'Occident. Il avait ses conquêtes étaient quasiment philosophiques. Hein. Quand il a fait épouser par 1000 de ses soldats, 1000 nobles persanes, c'est extraordinaire comme rêve. C'était une utopie. Mais il était macédonien, grec, mais quand même il s'habillait comme les satrapes perses. Bref, pour moi, c'est un homme extraordinaire. Mais malgré tout, il avait quand même des sacrées failles. Et puis c'était un
Ses failles, Alexandre Le Grand, un alcoolique.
Et puis il était quand même assez impulsif. Il avait des ivresses pathologiques à tel point que lors d'une orgie, il a quand même assassiné de ses mains un de ses meilleurs amis, qu'il a beaucoup pleuré par la suite, mais c'était fait, quoi. Donc c'était quand même pas un type tout à fait recommandable, même si c'était par ailleurs un grand homme d'État qui a bâti plein de villes, qui en a détruit aussi, quand même. Persépolis, on peut regretter quand même qu'il l'ait totalement détruite.
Oui, c'est peut-être un acte un peu impulsif, on ne sait pas si c'était sous l'emprise de l'alcool ou
c'était
autre.
C'était un peu ça, alors que Babylone, il la respectait. Pourquoi l'une, pourquoi l'autre? Alors on dit que c'est celles qui ont résisté qui ont été détruites, mais il y a quand même des exceptions.
Donc il faut aller chercher. Voilà.
Mais c'était aussi un grand général.
Un grand général. Alors vous, vous intéressez même, vous allez même jusqu'à vous intéresser, Patrick Lemoine, à des grandes figures, Jésus, Bouddha, et même Yahvé, auquel vous réglez son sort. Hein.
Oui, alors je ne parle que de Yahvé dans le livre des Rois et dans le livre d'Élie. Parce que je suis persuadé qu'à cette époque, si on lit bien le texte, Yahvé était un être humain. En tout cas, un personnage qui existait et qui tirait les ficelles par derrière.
Une sorte d'éminence grise.
Et qui était d'une violence, d'une impulsivité, d'une injustice absolument incroyable. Moi, je repense à cet épisode. Il décide de sédentariser l'Arche d'Alliance, où il y a l'étape de la loi. Donc, on bâtit un temple à Jérusalem. Et du coup, comme jusque-là, elle était nomade, elle était sous-tente, eh bien, ils font une grande procession à travers les rues de Jérusalem pour installer l'Arche. Et il y a un type, le malheureux, qui est chargé de faire le déménagement. C'est un déménageur. Il y a un virage qui est mal négocié et, l'arche est sur le point de tomber. Donc lui, il la retient. Mon Dieu, crime de lèse y avait, il le foudroie. Le gars est mort parce qu'il avait juste empêché l'arche de verser. Je suis désolé, c'est pas digne d'un dieu, ça. Et après, on peut me faire toute la symbolique qu'on veut, c'est quand même écrit noir sur blanc.
Alors, ce Yahvé-là, dans ce livre-là,
c'est un bon psychopathe, totalement impulsif, totalement injuste, totalement violent. C'est pour ça que j'ai beaucoup d'admiration pour Salomon, parce qu'il a osé
le
s'opposer.
Le roi Salomon, ça c'est quand même votre...
Ah, c'est mon chouchou.
Oui, c'est mon
chouchou. Dans un gouvernement
parce qu'il a osé
idéal,
s'opposer
je le mets tout de suite président de la République.
Ah, oui, on va y venir à votre gouvernement idéal. Donc c'est le roi Salomon qui est à la tête.
Oui, c'est le patron. Parce que il était sage et surtout il était galant. C'était un galant homme et ça j'aime bien. Il a mené une politique matrimoniale, il était polygame, il a épousé la fille de Pharaon, la fille des Hittites. Bref, il a épousé les filles de la plupart des grands états qui l'entouraient pour faire la diplomatie, comme ça se faisait à l'époque, comme ça s'est beaucoup fait, même en
Donc
France.
Très sensé et très juste, hein, le jugement du roi Salomon.
Mais ce que je trouve très bien, très juste en plus, ce que je trouve très bien, c'est que pour ses épouses, eh bien, il a bâti des temples à leur dieu, parce que c'était un homme galant, qui était à l'écoute de ses épouses.
Et tolérant.
Et tolérant. Et Yahvé, il n'a pas supporté, parce que c'était un dieu jaloux, et il a engueulé Salomon, qui l'a envoyé sur les roses, qui a dit, non, tu peux dire ce que tu veux, Yahvé, mes femmes, elles ont leur dieu, et elles continueront. Et c'est le seul qui a osé, parce que même Saül et David, ils en ont pris plein la tête, et ils n'ont jamais tellement osé s'opposer.
Ils n'ont jamais osé s'opposer, ils n'ont jamais osé faire comme Tikhonja Fakoly, sur RFI tout de suite, avec son mot d'ordre, qui a au moins le mérite d'être clair et net, quitte le pouvoir.
Si tu nous laisses dans la merde, oh là là, oh là là. était mal élu, mais tu t'es accroché. Aujourd'hui tout est gâché. Tu pourrais avoir des ennuis si les choses restent ainsi. Oh là là, oh là là.
Quitte le pouvoir, quitte le pouvoir. Je t'ai dit quitte le pouvoir. Quitte le pouvoir, quitte le pouvoir. Je t'ai dit quitte le pouvoir.
Aucun changement dans vos comportements, malgré différents gouvernements. 40 ans, tu pourrais passer un sale moment si tu nous pourris le temps. Oh là là, oh là là.
Quitte le pouvoir, quitte le pouvoir. Je t'ai dit quitte le pouvoir. Quitte le pouvoir, quitte le pouvoir. Je t'ai dit quitte le pouvoir.
Quitte le pouvoir, Tikenja Fakoli sur RFI, autour de la question de la santé psychique de celles et ceux qui ont fait le monde, pour reprendre le titre de l'ouvrage de notre invité, le psychiatre Patrick Lemoine. Mais pour l'heure, on s'interroge maintenant sur la santé psychique et la psychologie de nos hommes d'État, ceux qui nous gouvernent actuellement, avec cet éclairage en forme de question du professeur Olivier Houdet, spécialiste de la psychologie du développement. Écoutez sa question, elle est pour vous, Patrick Lemoine.
Apprendre et être intelligent, c'est inhiber, résister à soi-même. Prenons le plus grand chef d'État aujourd'hui, des États-Unis. On peut dire que finalement, Donald Trump, ce qui lui manque, c'est la capacité d'inhibition, donc l'usage du cortex préfrontal. Et je dis, en pensant à son comportement, qu'il faudrait qu'il tourne cette fois son pouce dans sa main avant de tweeter. Et ça, c'est typiquement ce que j'appelle le contrôle inhibiteur qui lui manque à l'évidence, qui a sans doute manqué à d'autres grands chefs d'État dans l'histoire et qui a conduit à des guerres de la violence par défaut d'inhibition de leur propre égocentrisme pour activer le point de vue de l'autre. Qu'en pense votre auteur ?
Qu'en pensez-vous, Patrick Lemoine ?
Oui, dire que Trump manque d'inhibition, c'est un euphémisme. Dire qu'il a une note en neurologie qu'on appelle frontale, moi je suis assez d'accord avec ça. Et en fait, l'avenir le dira, parce que soit... Bon, c'est un psychopathe impulsif,
c'est
mythomane,
un psychopathe, hein, oui.
Borderline, ce qui est le plus probable, soit l'hypothèse neurologique n'est pas impossible, il développe une démence frontale. Auquel cas, mais moi je ne suis pas neurologue,
oui.
Donc je ne peux pas vraiment le dire, puis je ne l'ai pas examiné, mais auquel cas, dans 5-10 ans, ce sera réglé. On a malheureusement en France un ancien chef d'État qui a développé ce genre de problème, qui avait peu d'inhibition avec les dames, dit-on.
Jacques Chirac,
on est, tout à fait dans des problèmes frontaux certains, d'autres origines. Puis lui, il s'est bien tenu, ce n'était pas un psychopathe, c'était un homme que je pense sensé, même s'il était un peu morphal et avait tendance à lever un peu trop le coude, mais... Bref.
Oui, il est sensé jusqu'à ce qu'il développe un problème neurologique.
Un problème neurologique. Alors que Trump, si c'est le cas, enfin, il n'est d'ailleurs pas tout jeune. Cliniquement, moi, j'avoue que je suis intéressé par l'évolution qu'on va observer. Est-ce que ça va rester un psychopathe de bas étage ? Ce qui est possible. Est-ce qu'il va développer un problème frontal ? L'avenir le dira.
L'avenir le dira. À propos des psychopathes, on a souvent tendance à penser que ceux qui nous dirigent sont souvent un peu psychopathes, ou en tout cas très peu dans l'empathie. Est-ce que c'est juste de penser comme
non,
ça ?
Non, je pense que je l'emploie de façon clinique. Le psychopathe,
c'est
quelqu'un qui est dans l'impulsivité et l'abandonnisme. On va dire que le prototype du psychopathe, c'est Johnny Hallyday. Je cogne, puis après je réfléchis. J'agis, puis après je réfléchis. Il y a eu plein d'expertises de Johnny qui avait cassé la figure, notamment à Lyon, du directeur du Palais d'Hiver, parce que la sono n'était pas bonne. Et j'avais discuté avec son psychiatre expert à la demande du tribunal, et il m'avait dit oui, c'est un impulsif. Des gens qui sont à la fois impulsifs et abandonniques. Et quand on connaît l'histoire de Johnny, abandonné par son père, que j'ai connu et traité comme SDF, on s'aperçoit que c'est... qu'il est typique de ce fonctionnement. Un psychopathe, c'est souvent des gens extrêmement sympas, extrêmement chaleureux. Il était d'une générosité sans borne, Johnny. C'est pour ça qu'il avait tant de parasites autour de lui. Mais c'est un type hyper sympa, adorable même.
Oui, c'est ça. Vous ne portez d'ailleurs, enfin, vous êtes en tant que psychiatre, vous ne portez absolument pas de jugement
sur
toutes ces failles psychiques. Donc vous
absolument.
Dites vous-même que c'est aussi une forme de génie à chaque fois. Enfin, c'est ce qui les pousse.
Un psychiatre, c'est quelqu'un qui ne doit pas porter de jugement de valeur. J'avais un de mes grands amis à Lyon qui a été en charge de Klaus Barbie. Un monstre. Horrible. Et il me disait, mais au bout d'un moment, et pourtant c'est quelqu'un qui n'est pas suspect du tout d'être de droite ni d'extrême droite, au contraire. Il me disait, mais ce pauvre grand-père qui était loin de ses petits-enfants en Allemagne, j'avais pitié. Puis je me disais, mais c'est pas possible, c'est quand même un monstre. Mais bon, il était dans l'empathie avec ce monstre. Parce qu'un psychiatre, c'est son job d'être sans jugement vis-à-vis de ses patients.
Alors, je ne sais pas si c'est votre job, Patrick Lemoine, mais vous proposez donc des traitements à chacun de ces grands hommes d'État du passé. Si vous aviez été leur psy, alors on a compris, vous auriez fait enfermer Hitler et Staline, et voilà. D'autres n'auraient pas eu, pas subi grand-chose.
Par exemple, tout anachronisme mis à part, par exemple, le roi David, je lui aurais mis du lithium. Et je pense que ça l'aurait beaucoup aidé.
Un
parce
peu de lithium pour stabilisé... le roi David.
Oh, pas un peu, une dose efficace. Parce que c'est un stabilisateur de l'humeur et que le trouble bipolaire, c'est une maladie comme le diabète. C'est une maladie très biologique qu'on traite de manière biologique. Churchill, j'aurais mis un autre stabilisateur de l'humeur, par exemple ce qu'on appelle la lamotrigine, de manière à ce qu'il puisse garder quand même plus de créativité parce qu'il n'avait pas ce côté extrême des épisodes du roi David.
D'ailleurs, dans votre gouvernement idéal, parce que vous y allez vraiment fort, vous êtes un peu lâché, vous vous êtes amusé aussi, Patrick Lemoine, vous nous proposez à la fin de ce livre un gouvernement idéal. Alors, Churchill, il aurait été aux affaires étrangères, le roi Salomon, président, voilà. Hein. Jésus-Christ à l'éducation nationale.
Oui, laissez venir à moi les petits-enfants.
D'accord. De Gaulle, Alexandre le Grand, Jules César ou Napoléon à la défense.
Oui,
c'est logique.
Grand stratège. Oui.
D'accord. La grande Catherine de Russie à la culture.
Oui.
Marie-Antoinette à la musique, Napoléon à l'Assemblée nationale.
Oui, parce que c'est quand même un des plus grands législateurs de tous les temps.
Bouddha au culte, logique bien aussi sûr. Pour sa tolérance. Jeanne d'Arc à l'égalité entre les hommes et les femmes, moi j'aime bien ça. Et puis on met Hitler à l'entretien des bâtiments.
Bah oui, parce qu'il aimait bien peindre, donc j'aurais fait peindre les bâtiments. Je pense qu'il serait assez à sa place là.
Qu'avez-vous appris, vous, le psychiatre et l'homme humaniste, de cette enquête? Est-ce qu'elle est finie ou pas? Est-ce que vous n'allez pas nous en proposer une sur nos hommes et femmes politiques contemporains?
Ah, ça me titille. Hein. J'aimerais bien sortir un truc pour les prochaines élections présidentielles. Ça m'amuserait beaucoup. Ce que j'ai appris, c'est que je ne ferai jamais de politique.
Vous allez continuer la psychiatrie et exporter, parce qu'on ne l'a pas dit, et exporter les cliniques psychiatriques au sud, vous revenez du Brésil,
absolument, je crois. Absolument, oui, dans les pays du Golfe. Et oui, parce que je pense que la psychiatrie française et la médecine du sommeil, parce que c'est quand même mon métier de base, le sommeil, sont exceptionnels et qu'on peut créer de beaux fleurons français à l'étranger.
Merci infiniment, Patrick Lemoine, d'être venu en direct partager toutes ces pistes, toutes ces interrogations, tous ces diagnostics, pas toujours très flatteurs. Pour ceux qui nous gouvernent, je rappelle le titre de votre ouvrage, donc sérieux et drôle à la fois, La santé psychique de ceux qui ont fait le monde, qui est paru aux éditions Odile Jacob. Merci, Patrick Lemoine.
Autour de la question sur internet, www.rfi.fr.
Autour de la question, réalisée par Hugo Violas, avec Caroline Fillette en coulisses et Caroline Lachowski au micro, c'est fini pour aujourd'hui. Demain, on continue de faire le buzz avec les abeilles autour de la question comment se mettre dans le cerveau d'une abeille. Le chercheur Martin Jurfin nous fera partager ses découvertes sur le zéro, bien connu de ces intelligentes butineuses qui savent donc compter, s'orienter et communiquer en dansant. Rendez-vous demain pour en faire notre miel et merci de votre curiosité sans cesse renouveler, chers amis auditeurs, surtout gardez l'esprit libre et ouvert. À l'écoute de RFI, c'est bientôt l'heure des informations.
Milliards de voix.